Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes habitués de ce podcast, vous avez peut-être remarqué que j'ai eu sur les derniers épisodes quelques complications avec le son des enregistrements, avec quelques bruits de fond parfois un peu envahissants. Je prends quelques secondes aujourd'hui pour vous expliquer à quoi c'est dû. Depuis le déconfinement en mai dernier, nous devons mettre un film plastique sur les micros. On bricole ça comme on peut, avec un élastique, puisque l'on doit changer le film pour chaque nouvelle interviewée. Pendant l'enregistrement, il arrive donc fréquemment que la main bouge sur le micro et fasse du bruit sur le film plastique, ce qui est amplifié puisqu'on est sur le micro, sans compter le fil du micro auquel on oublie donc du coup de faire attention et qui se retrouve à taper sur un bord de table. Tout ça pour vous dire que cet épisode a aussi eu droit à tous ces petits bruits qui se sont invités parmi nous, mais la bonne nouvelle, j'ai investi dans 2 pieds de micro. Alors en déplacement, ça alourdit un peu la charge puisque moi je fais toutes mes interviews en déplacement, donc c'est plus lourd à transporter, mais cela devrait nous permettre de juguler le problème sur les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec la Dame Blanche, chanteuse et musicienne cubaine qui sort son 4e album. Un étonnant et séduisant mélange de, je vais même pas pouvoir tout dire, mais de hip-hop, de musique cubaine, de sonorités urbaines et traditionnelles, d'électro et de flûte traversière, puisque tu es flûtiste et aussi percussionniste. Je crois qu'il y a aussi d'autres instruments, on va en parler. Et tu fais une musique où s'invitent les esprits. Et je l'ai.
Correctement, très bien dit.
Bienvenue sur le podcast de So Sweet Planet. Bonjour la Dame Blanche.
Bonjour et merci beaucoup.
Et j'ai regardé pas mal évidemment de choses que écoutées, de choses que tu avais faites pour préparer cette interview. Donc je vais te poser une question à laquelle tu as déjà répondu, mais pour nos auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, je vais quand même te la reposer. Qui est cette Dame Blanche et pourquoi as-tu choisi de t'appeler la Dame Blanche?
Bah, la Dame Blanche, c'est un personnage de légende qui est reconnu dans beaucoup de cultures. Vraiment, c'est une anecdote très connue dans beaucoup de cultures. Et je pense que le fait de m'appeler la Dame Blanche, ça donnait pas seulement cet état de spiritualité qui me ressemble tant, pour l'ironie d'être une femme noire. Et parce que je le voulais ainsi, parce que ça donne toujours une belle sourire quand je dis que je suis la Dame Blanche.
Donc on se rencontre pour parler de ton 4e album, ça fait déjà pas mal, hein, bravo.
Oui.
Qui s'appelle Ella, et aussi pour parler bien sûr de ton univers et de ton parcours. Ça te va ?
Avec plaisir.
Donc avant de discuter de tout ça et de tout ce qui t'anime, je vais te demander, est-ce que tu vas bien ? Parce que les artistes et les sorties d'albums sont un peu bousculés depuis quelques mois maintenant par le coronavirus. Donc comment ça se passe ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que cet album, la sortie était prévue peut-être plus tôt comme beaucoup d'albums ?
Oui, j'y vais bien. J'y vais bien, c'est très très difficile au quotidien parce que, comme je dis toujours, je suis une artiste qui est sur la route, c'est ça qui me plaît. Les grandes, les petites, les moyennes scènes, c'est ça qui c'est ma thérapie. Et évidemment, ça intervient tous les jours à la maison comme un coup de foudre. J'ai envie de sortir, de prendre ma valise, mes chaussures. J'arrive pas à remplacer ça, à tenir en place. C'est sûr que cet album, Aya, elle arrive au bon moment. Elle aurait dû sortir avant, mais elle arrive au bon moment parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement des vibes à envoyer, des choses à donner et recevoir aussi, que je pense qu'elle va faire beaucoup de bien.
Il y a une belle énergie. Donc, tu es née dans un quartier modeste de Pinar del Río.
Pinar del Río, la terre du cigare.
À Cuba.
À Cuba.
Je crois que c'est à 150 km à peu près de La Havane.
De La Havane.
D'accord.
Exactement.
C'est une ville, un village ?
C'est une ville. C'est une ville modeste, très jolie, très arborée. Mm-hmm. Et ça sent les cigares humides. Et quand il pleut, tu les sens bien. Ça me manque énormément. Ah oui, énormément.
Tu retournes souvent?
Je retourne souvent. Et je ne pourrais pas vivre sans. Donc, avant les confinements, j'ai fait demi-tour en Normandie parce que je devais partir à Cuba pour mon premier show à La Havane. Donc, ça a été très dur. Très dur.
C'était ton premier show en tant qu'artiste solo ou ton premier show pour cet album?
C'était mon premier show comme la Dame Blanche. Ça veut dire que ma famille ne sont jamais vu cette Dame Blanche que j'ai inventée. Déjà, ils n'étaient pas très fiers quand je les commentais mon projet. Je l'ai dit à mon père, grand musicien. Je l'ai dit, papa, je vais faire du hip-hop. Je vais pas abandonner ma flûte, mais je vais faire du hip-hop. Je vais m'appeler la Dame Blanche. Il n'a pas hésité à me dire que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, que je n'arrêtais pas d'inventer, qu'il allait me suivre. Ça suffit, je ne te crois plus.
Il aurait aimé que tu restes dans la tradition?
Je pense, oui. Ah. Je pense. Mais là, à force, il a vu qu'il n'y avait pas marche arrière. Oui. Ah, c'est bon, c'est trop tard.
Oui, parce que tu viens d'une famille de musiciens et ton père, donc, on va le dire, a été directeur artistique du célèbre Orchestra Buena Vista Social Club, oui, qui a marqué quand même l'histoire de la musique bien au-delà de Cuba.
Exactement. Dans le Buena Vista, il se perd, ses musiciens, les trombonistes, excellents trombonistes, oui, performants. Et c'est sûr que la musique électronique... comme il n'y a pas de partition, pour lui, ce n'est pas de la musique. Mais à force, comment on s'apprécie.
Oui, parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont vraiment des grands musiciens dans ta famille. Je crois, oui, qu'il y a un oncle aussi qui a joué.
Mon
avec
oncle,
des,
Mayito
des
Rivera,
prestations
connues. Les cousines. Vraiment, j'étais mal au point. Il fallait qu'il fasse mes épreuves vraiment très fortes.
Et toi, tu as fait une école de flûte traversière.
Oui, j'ai commencé à 8 ans, la flûte classique.
Pourquoi la flûte? C'est toi qui as choisi ou on t'a mis ça dans les mains?
Je voulais faire comme mon père, je voulais jouer du trombone ou la batterie, quelque chose qui fasse plus de bruit. Mais mon père m'a dit, mais avec tes petites mains, choisis la flûte. Et un mot de mon père, pour moi, c'était, je suis amoureuse de ce mec, je l'adore. Et il m'a dit, choisis la flûte, il m'a fait écouter beaucoup, beaucoup, avant de commencer cette école. J'ai tombé très dingue de cet instrument. Tout petit, c'est mon sac à main. Je pense que j'ai toujours cherché à faire la différence par rapport à cette élite de musiciens qu'il y a dans ma famille. Je voulais faire la différence, comme il n'y avait pas de flûtiste, j'ai dit ça, c'est une bonne stratégie comme ça. Je vais être la seule. Déjà ça, je vais choisir la musique classique parce qu'au moins, je vais être la seule. Et la vie m'a amenée à chanter, à jouer des percussions. Ce n'est pas les choses qu'on veut, c'est le destin, c'est là où... Et voilà, je m'arrive à faire du hip-hop avec ma flûte, à dire et chanter comme je veux, sans restreinte, sans montrer rien du tout, montrer juste qui je suis parce que je le veux.
C'est ça.
Oui.
Bon, alors, quel souvenir tu gardes de cette enfance, de cet environnement musical? Parce que peut-être qu'ils étaient souvent eux-mêmes en tournée ou est-ce que tu étais dans ce bain vraiment musical avec
complètement
eux?
Oui. Complètement, ça veut dire que la musique formait partie de nous, de notre quotidien. C'était très facile, jamais à la maison, faire une bonne jam, écouter, harmoniser à voix, à plusieurs voix. C'était vraiment les jeux après le domino, évidemment. Les dominos, ils étaient après, mais c'est vrai qu'on jouait beaucoup, énormément, tout le temps, même c'était notre jeu préféré. Il y avait toujours un petit peu de la démonstration, non? Parce que les Cubains, on est très compétiteurs, mais c'est vrai que j'étais dans depuis toujours. Je ne me rappelle pas un jour sans musique à la musique.
Oui, puis des jams entourés de gens de ce niveau-là, oui, ça aide. Hein,
là, quand c'est en tour, t'as intérêt à rassurer. Rassurée, j'étais le bilan petit canard dans ma famille, c'était moi.
Mais j'aimerais bien que tu nous emmènes un petit peu explorer ton univers d'enfance, qui t'a marqué, ce qui a contribué à faire celle que tu es aujourd'hui. Par exemple, des couleurs. Souvent ici, quand on pense à Cuba, on voit des couleurs, parce que les photos, on voit...
Donc, oui, c'est vrai, c'est très coloré.
Toi, peut-être, ça t'a moins marqué parce que tu étais dedans, c'était normal pour toi, mais quelles sont les... Est-ce qu'il y a des couleurs qui t'ont marqué, que tu gardes encore aujourd'hui,
où que tu ailles? Surtout qu'avec la mélancolie de quitter Cuba, de vivre ailleurs, et que les jours sont... Les 24 heures, ça reste quand même... un bail pour nous, loin de Cuba. Les couleurs, ils sont là, les bleus du ciel, la mer, les verts, surtout dans ma petite province. Et les verts, les gris, parce qu'on n'a pas beaucoup de jours en gris à Cuba, donc quand ça arrive, c'est les jours de romantisme. C'est les jours romantiques. Ici, c'est un éternel, les gris. Oui, on est romantique toute l'année. Oui. Mais à Cuba, quand la grisaille arrive, quand la pluie arrive, c'est sûr qu'on est tout étonné. Voilà. Ça ne nous arrive jamais. Les beaux ciels bleus.
D'accord. Des odeurs. Ah. Parce que tu as parlé de, justement de cette région de cigares.
Ouais. Ça veut dire qu'en arrivant à Cuba, et, bah, évidemment, les voitures américaines, ils ne te laissent pas un odeur indifférent.
Ah, oui. Parce les vieilles voitures américaines.
Ouais. On roule toujours avec ça, donc à l'essence, ça se sent bien. Mais dès que tu rentres dans l'intérieur de la Provence, de Pina del Río, et on sent vraiment l'odeur de la terre. C'est vraiment quelque chose qui manque dans ton quotidien, surtout à Paris, de dire ah, j'aimerais bien avoir un échantillon de ces parfums quand il pleut. L'odeur de l'humidité et du cigare, c'est délicieux. C'est vrai que c'est trop bon.
Des sons.
Des sons.
Oui, des sons.
Si je ne me pose pas la question, si je ne cherche pas très loin, je pense que les gens, on parle très fort à Cuba. De petit matin, c'est ton réveil, c'est ta voisine. Hey, il est 8 heures, vas-y. Et ça commence très tôt. Les voix.
Les voix. Des goûts, la cuisine.
Des goûts, waouh, c'est tellement bon la nourriture à Cuba, mais c'est vrai que c'est une polémique parce que c'est dur à en trouver. Mais les odeurs, surtout du manger, c'est les poulets frits ou la banane. Et les fruits, ils ont un goût extraordinaire, mais c'est vrai que comme odeur, la première odeur qui sort de la cuisine, c'est une bonne soupe au poulet. Bien épaisse, comme
avec
ça, avec
des
du maïs, avec des épices.
Qu'est-ce que vous avez comme épices?
Bon, là-bas, on a ce qu'on trouve déjà. Hein, oui. Parce qu'on ne trouve pas grand-chose, on se débrouille avec du sel et de l'ail. Mais c'est vrai que l'ail, il est bien présent dans la nourriture cubaine.
Et des images, est-ce que tu as des souvenirs d'images fortes de quand tu étais petite?
Oui, j'ai des images les plus fortes, c'est toujours autour de la musique. On avait un vieux piano. Et à chaque fois que je vais en arrière, que j'ai une petite pensée pour Cuba et pour mon enfance. Et la première chose que je vois, c'est mon père au piano. Il y avait juste un mur en bois, très fin, hein?
Oui.
Presque du carton. Et de l'autre côté, il y avait mon frère. Tout petit frère, je suis la plus petite, mais mon autre frère était juste à côté. Il n'a pas fait de musique, il détestait le piano. Oui. Et c'était la première image qui me vient à l'esprit, moi, tout petite. À côté de mon père, il s'est piano, il s'est mur en bois. Il est parti dans un cyclone, hein, très vite. Il n'a pas duré longtemps.
Je crois que tu joues d'autres instruments hein, que cette flûte, alors.
Oui.
Quelle est la palette
Oui, donc après, déjà à Cuba, l'école, le piano, il est obligatoire. Peu importe l'instrument que tu joues, c'est comme dans les ballets, parler en français, c'est obligatoire. Moi, comme flûtiste, le piano, c'était obligatoire. Il faut jouer du piano. Et donc le piano, c'est sûr, pour composer. Et après avoir fini l'école, et j'avais pas d'instrument, c'était l'instrument de conservatoire, et bah, il fallait travailler, j'ai commencé à chanter et à faire des percussions, parce qu'il y avait beaucoup de groupes féminins qui commençaient à se former et tout ça. Donc j'ai choisi les congas, je me suis mis à fond pour jouer dans des groupes féminins et essayer de jouer, d'avoir une place parmi tout cet orchestre de féminines qui s'est construit. C'est tous les jours, il y avait un orchestre, je voulais être dans le move, donc j'ai pris les congas, je suis conguera et flûtiste et pianiste.
Et vous jouiez quoi alors, tous ces jeunes groupes-là, de jeunes femmes?
De la pure salsa, de la pure timba cubaine, c'était très performant, on répétait tous les jours, il fallait y aller vraiment. À Cuba, si tu es musicien, il ne faut pas être les dernières de la place, sinon tu ne vis pas de ça. Même que la musique, c'est un beau métier, il faut être très bon. La compète, elle est vraiment très dure.
Et toi, dans la famille, tu étais la seule fille
les
à faire
bilans,
de la musique?
Les petit canard. J'étais pas la seule, j'étais la dernière surtout. La toute dernière de la fille. Ça veut dire que la dernière à pouvoir placer une phrase, c'est toujours moi.
La dernière, la plus jeune, tu veux dire?
Non, j'étais pas la plus jeune, mais c'était dur à se faire entendre avec toutes ces voix énormes.
Ah oui, t'étais un peu écrasée par
le... Complètement, je ne vais pas dire le contraire.
Donc, tu écris et tu composes.
Oui. J'écris, je compose cet album, toujours en collaboration avec Baby Lation, parce que techniquement parlant, je peux écrire une partition, mais alors là, la musique électronique, ce n'est pas mon fort. Donc, j'amène mon idée en partition, comme je peux faire traduire les choses que je veux entendre. Il y a toujours Baby Lation à mon côté depuis toujours, qui traduit ça très bien.
Il y a une bonne osmose, oui, et il arrive bien à traduire tes idées en
son. Oui, c'est mon ami le plus fidèle, je ne veux pas le perdre. Oui.
Donc, tu es arrivée en France il y a combien de temps?
Ça fait 20 ans.
20 ans tout rond?
Oui.
Donc, en France, tu as collaboré avec beaucoup de groupes aussi, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de collaborations aussi.
Je peux aller faire du featuring à droite et à gauche via les réseaux, via Internet, c'est sûr. Mais en arrivant de Cuba, la salsa, elle était tellement à la mode que j'ai pu travailler avec des groupes et des artistes que je n'ai jamais imaginé pouvoir jouer.
Sergio Garcia, j'ai vu.
Ah, c'était une bonne école. C'était une très, très jolie école. Ça m'a donné, je pense, l'ambition d'être soliste et d'être la maîtresse de la scène pendant un instant. Je pense que ça, il m'a donné beaucoup envie, oui.
Tu disais que tu venais du Latin Jazz, mais ça, c'est encore une autre période, le Latin Jazz, ou...
Ça veut dire qu'en sortant des conservatoires, ma vie, elle a été vraiment rien à voir avec les choses que j'avais prévues.
Oui.
Parce que comme il n'y avait pas d'instrument, il fallait bien qu'elle fasse quelque chose. Et j'ai commencé à chanter dans des cabarets, et jouer les percussions
À Cuba.
Oui. La percussion pour pouvoir intégrer un groupe ou l'autre. Je ne savais pas à ce moment-là que j'étais en train d'enrichir ma carrière pour plus tard.
Mais c'est souvent ça, hein. C'est avec le recul qu'on comprend la cohérence.
J'ai rêvé toujours d'avoir cette flûte pour aller jouer dans mon orchestre classique. Et vraiment, je l'ai fait un an et demi. Vraiment, après, les chants, les percs et la musique populaire, ça m'a troublée.
Donc en France, il y a eu toutes ces collaborations, mais je me demandais, est-ce que tu joues aussi pendant toute cette période dont on vient de parler, avec des groupes à Cuba? Est-ce que tu avais une double vie musicale là-bas ici, ou est-ce que c'était essentiellement ici?
À Cuba, j'ai travaillé pendant longtemps avec un septet de musique traditionnelle cubaine, s'appelait Sabor a Miel, on était 7 filles. Et c'était mon premier voyage en Martinique. J'ai sorti de Cuba la première fois, c'était pas loin, hein. Vraiment tout près, mais j'étais fière de prendre l'avion. Et évidemment qu'ici en France, et arrivé ici, j'avais pas l'ambition d'être soliste, je voulais accompagner, j'adore accompagner les musiciens et mettre les artistes en valeur, autant comme choriste, comme flûtiste, j'aimais ça. Et c'est vrai que ici en France, vu qu'il y a tellement de choses et musique à embarquer, ça te donne l'ambition de dire je vais faire ma sauce toute seule pour voir qu'est-ce que ça donne, quoi. Parce que c'est bien. Je pense que c'était la revanche aussi, l'accumulation, l'explosion du personnage.
Oui, c'est
de
ça.
Dire d'une façon ou d'une autre, bien caché dans ma pensée, de dire à tous ces grands musiciens de ma famille que le bilan petit canard, il existe, il va devenir un cisne.
Il a grandi discrètement, il veut...
Lentement, voilà. Comme les fourmis, complètement.
Alors, tu as déjà eu pas mal d'éloges de la presse internationale et française. J'ai vu une belle page sur la radio américaine NPR. Il y a eu France Culture, Nova, l'émission Trax sur Arte. Et là est ton 4e album. Côté musique, de quoi avais-tu envie pour cet album par rapport au précédent?
Oui, je pense que comme tous les albums, c'était pas une stratégie. Je rentre pas au studio pour faire un album. Je passe l'année en train d'écrire et chanter et collaborer. Mm-hmm. Donc du coup, c'est sûr que celui-là, la différence qui est là, c'est son but. Elle s'appelle Ella.
Oui.
Ella, c'est elle en français. Et c'est vraiment un cri, c'est mon petit grain de sable contre la violence, contre la femme en elle-même, de lui dire, ma chère, regarde comme t'es belle à ma façon, et de lui donner un petit peu d'auto-estime à la femme.
D'estime de soi?
D'estime de soi à la femme. Oui. C'est un hommage complètement.
Oui, parce qu'il est composé de 10 titres, cet album, et chaque titre, en fait, c'est un titre au féminin. Qui parle d'une femme.
Oui.
Est-ce que tu peux nous traduire les titres des chansons? Parce que tu chantes
en espagnol.
Et les titres, évidemment, sont en espagnol. Et c'est toujours là quelque chose.
Oui, ça veut dire que c'est 10 femmes avec ces 10 histoires différentes. Et je pense que dans chacune, il y a quelque chose de moi, quelque chose que je tiens à défendre, à dire. Et ça commence par la creyente, c'est celle qui croit, la croyante.
Oui.
L'américaine, la condenada, condamnée, comment est-ce qu'on dit?
Ben, je ne sais pas, parce que je parle très peu espagnol.
La condenada, c'est une femme qui est malade, mais elle a une force. Je pense que cette maladie, elle est condamnée. Je l'ai dit mal, en fait.
condamnée, oui, la condamnée.
La condamnée. D'accord. Et l'inconditionnel, la
maltraite.
La maltraitée, la maltraitée. Et elle se révèle. Elle dit, la maltraitée, ta pensée maltraite. Je suis la maltraitée, mais tu l'es aussi, parce que quelque part, tu ne vas pas dormir tranquille non plus. Donc, quelque part, je suis maltraitée peut-être, mais tu ne vas pas dormir tranquille.
Oui,
donc,
oui.
Il y en a comme ça, jusqu'à dix femmes différentes qui racontent vraiment beaucoup de choses. Il y a une qui est tellement méfiante, qu'elle a peur. Elle n'a plus peur, elle fait confiance à personne. De toute façon, c'est trop tard, elle est saturée. Et il y a pas mal d'éléments qui touchent comme ça la femme, que vraiment j'ai envie de mettre en avant pour mettre mon petit mot et pour me révéler. Parce que si on ne parle pas, et on ne gagne pas.
Donc du coup, c'est un mélange de femmes que tu as croisées et aussi de choses
que
tu as vécues.
De moi-même, oui. Je pense qu'il y a les informations, surtout Internet, et ça te donne une idée de ce qui se passe dans le monde entier. Donc il y a des choses qui sont vraiment violentes, qui te choquent, même si tu n'as jamais arrivé, que tu dis que ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose, tu es frustré. Et je pense que dû à cette frustration, ils sont sortis petit à petit tous ces personnages de cet album appelé « Eya ».
Tu l'as écrit sur combien de temps, tous ces textes, tu les as...
Ça
Ils
va
sont
vite,
venus
Marcella.
Très vite les uns après les
non,
autres
Non, je ne pense pas. Ça arrive dans un avion, dans un train, aux toilettes. Je profite de cette étincelle-là qui n'arrive pas souvent. C'est comme un petit ange, l'inspiration. Donc on les prend à ce moment-là. Oui. On ne les lâche pas.
Mais tu avais dès le début l'idée de ce concept, de que chaque chanson soit un profil féminin.
J'aurais bien aimé, mais non, ça a venu vraiment quand j'ai vu « Ah, je vais faire un album ». C'est parce qu'il s'était là, il criait dans le tiroir « Sortez-moi d'ici ». Donc, pendant le confinement, évidemment, je m'ai posé la question vraiment. Avant le confinement, déjà, on avait l'idée de le finir.
Oui.
Et là, ça tombe bien parce que c'est mon moment de libération, de sortir tous ces mots et de dire à toutes ces belles femmes qu'on est là, qu'on n'est pas une et deux, on est des milliards et des milliards, on est les plus belles, indiscutiblement.
Sur le texte de présentation de ton album pour la presse, on peut lire que chacune de ces femmes est, alors je cite, est un miroir reflétant les multiples facettes de ta propre personnalité. Ce sont aussi des archétypes féminins universels qui racontent le refus de la violence, l'affirmation de soi face à l'adversité, la liberté sexuelle et les méandres du désir. Donc c'est ce que tu défends.
Exactement. Oui, je pense qu'il sait bien, je les revendique, je vais les défendre avec beaucoup de force parce que la passion, il ne faut pas que s'éteint, l'amour, le sexe, il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Le combat, il est magnifique. Mais on est là, on est vivant tous les matins, tous les soirs, on va au lit, il faut qu'on soit vraiment épanoui dans tous les terrains.
Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, sur le refus de la violence? Est-ce que c'est de la violence en général ou est-ce que tu pensais à une violence en particulier? Ça peut être la violence faite aux femmes, la violence policière, parce qu'il y a eu pas mal de cas ces derniers temps.
Oui, je pense que c'est une cible à la violence à la femme, une cible à la violence physique. Et ça me choque énormément. Comment est-ce qu'on peut être... violente, une femme peut être violente à ces degrés, c'est vraiment, on a perdu la mesure de la violence, autant policière, comment à la maison, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire conscience et dire stop, chouchou, calme ta joie, et c'est vraiment terrible, tout le monde a une maman, je me demande comment un homme elle peut être si violent, sévèrement, envers une femme ou ses propres enfants, je ne comprends pas. Et c'est évidemment quand on écoute cet album qui va sortir, surtout La Maltraitée, il a un air très ironique. C'est une musique fluide, que n'importe qui peut placer une petite danse, c'est vraiment de la musique douce. Mais il a une très très forte parole et il y a un combat à défendre. Mais derrière tout ça, c'est la paix. Où est-ce qu'on va? On va aller vers ça au moins. Rassurez-moi.
On espère.
On espère, vraiment. On est de plus en plus dans la merde, mais j'espère que la fin viendra.
Et à Cuba, c'en est où? Il y a eu beaucoup de changements quand même.
À Cuba, il y a des changements même au quotidien. Mais nous, les peuples,
oui, c'est ça. Est-ce que la situation... s'améliore?
Non. Non. La situation ne s'améliore pas et justement les changements, ça fait que ça devient de pire en pire pour manger, pour s'entretenir, pour tout, c'est, tout est compliqué. On est le peuple de la débrouille, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas nous compliquer les choses de plus en plus, si c'est le cas dans ce moment.
Et quel est l'état d'esprit des gens? Est-ce qu'ils sont...
Toujours mojito, toujours musique, toujours... Si on arrive déjà à trouver pour aujourd'hui, on va trouver demain. Donc, je pense que c'est la force du cubain. Mais évidemment, quand on est sur place, parce qu'on peut parler aujourd'hui en étant ici, mais quand on est sur place, c'est très, très dur à garder la morale et l'espoir.
J'ai lu, je ne sais plus où, j'ai lu La Dame Blanche, la voix des petits corps brisés.
Oui. C'est mignon.
C'est joli.
C'est ça que je pense que je soutiens à les plus faibles, par exemple. Et je soutiens à celui-là qui n'a pas de voix, je soutiens à celui-là qu'on ne l'entend pas. Peut-être parce que je suis pas une voix très, très écoutée, mais je m'efforce pour et j'ai trouvé une voix pour arriver à me faire entendre. Donc évidemment, j'amène avec moi toutes mes petites cœurs brisés.
La makuta cubaine, alors moi je ne suis pas une grande spécialiste des musiques latines en général. J'ai lu que c'était un rythme originaire du Congo qui accompagnait les cérémonies royales de couronnement comme pour rappeler à chaque femme la divinité qu'elle porte en elle.
Ah, c'est vois, ça? Je néglige rien. Je travaille avec toutes les armes, oui, tout à fait. La makuta,
c'est beau,
ça, c'est
quand
dense,
on lit ça.
Cuba. Oui, c'est un rythme très entraînant. Facile à danser, mais derrière toutes ces rythmiques délicieuses ou simples, il y a vraiment une grande magie, ça vient vraiment de très loin. Donc j'amène toute cette spiritualité là-dedans, j'amène vraiment beaucoup de force avec, comme une sorcière bien aimée.
Et dans la continuité, j'ai vu qu'il y a quelque chose aussi d'important pour toi, c'est la Santeria.
Si,
alors,
c'est notre
explique
religion.
Explique-nous un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est?
Bon, la Santeria, c'est notre religion afro-cubaine et qu'on amène de très, très, très loin. Et évidemment, elle a été...
Très loin dans le temps, tu veux dire?
Dans le temps. Et elle a été déguisée derrière le catholicisme. Donc, peut-être on allait à l'église, mais au fond de nous, on gardait notre petit langage bien caché. Ça, c'est pas possible à s'échapper. Aujourd'hui, la Santeria, c'est notre quotidien. C'est notre espoir à nous, et nos rituels, nos tambours, nos bougies, nos magies, les esprits qui te parlent, qui te disent une petite chose à l'oreille, on les prend, l'intuition,
voilà. Donc,
et on vit avec ça.
Plus on est dans des sociétés où le matériel a pris de l'importance, et plus on a perdu ça. On parlait tout à l'heure du Népal, puisque tu as joué plusieurs fois à Katmandou. Et c'est très frappant à quel point, dans plein d'endroits dans le monde, la spiritualité, les esprits, c'est très, très présent. Il y a des choses avec les ancêtres. Et alors, nous, on est arrivé au niveau quasi zéro, ici, là, en France, ou dans les pays où le matériel a pris beaucoup de place.
Et
on regarde souvent avec de la suspicion. Il y a plein de gens pour qui c'est vraiment un autre monde complètement. Et en fait, j'aime bien quand j'ai l'occasion d'avoir quelqu'un qui vient comme ça d'une autre culture, de spiritualité différente, ramener devant le micro, dans ce monde virtuel, cette richesse-là aussi.
Oui, parce de toute façon, comme on
c'est
dit,
très riche.
Comme on dit à Cuba et comme on dit nos bien-aimés esprits, il vaut mieux être accompagné et même si tu ne le veux pas, regarde bien à droite et à gauche, on est là. Tes anges gardiens, et je préfère croire à quelque chose. Je préfère vivre accompagné de mes dieux et mes saints, avec ce respect, avec cette confiance, et ça me donne de la force et surtout de l'espoir.
Et la Santeria, c'est que à Cuba ou ça
Non, au Brésil aussi. Ah, je pense qu'il y a pas mal de pays latinos qui font la Santeria aussi.
D'accord. Mais à l'origine, donc, ça vient d'Afrique.
Ça vient de l'Afrique.
Et on retrouve les racines dans plusieurs pays,
complètement,
j'imagine,
en Afrique. Oui. C'est notre maison.
Oui.
D'accord. À tous, d'ailleurs.
Et toi, tu es déjà allée jouer, chanter en Afrique?
J'étais jouer en Afrique, mais bon, comme partout dans le monde, on met un pied, on joue, on laisse une petite empreinte et on s'en va.
Ah, c'était court.
Donc, oui, toujours
court.
Très court.
Dans
J'espère
quel pays?
Pouvoir y aller au Congo. On a fait une belle tournée, mais vraiment
T'as pas pu aller en immersion sur le terrain.
J'ai vu que d'où je venais, j'ai vu plein de petits visages qui me ressemblaient beaucoup,
familier.
C'est vraiment trop chouette. Ouais. Mais j'ai pas pu aller y connaître vraiment, et m'imprimer de ces lieux-là.
Donc dans tes titres, on navigue entre, donc on l'a dit, hip-hop, cumbia, dancehall, reggae, makuta, l'influence du latin jazz et des musiques cubaines et latines traditionnelles, un son urbain et électro et de la flûte traversière. Qu'est-ce que tu écoutes le plus chez toi ou en voyage?
Est-ce que
c'est tout ça ou...
Ça veut dire, le matin, j'écoute de la musique classique. J'adore écouter Vivaldi et je pense que avant d'allumer la bougie, amener toute ma négritude et ma salseria. Je pense qu'un peu de calme, commencer la journée comme ça, c'est bien. J'étudie beaucoup Nina Simone, ça me donne la pêche. Mais je vais dans tous les univers. Je peux aller à José José, Roberto Carlos, au Marc Anthony dans la salsa. Je me balade beaucoup, j'écoute un petit peu de tout. Snoop Dogg, j'écoute un petit peu de tout. Je ne me limite pas à faire un seul style de musique, dire la Dame Blanche fait du rock, la Dame Blanche peut faire tout genre de musique.
Ah oui, ça on a bien compris.
Tant qu'on tape juste.
Et qu'est-ce que tu as écouté ces derniers mois, par exemple pendant le confinement? Qu'est-ce qui te faisait du bien?
Donc je me suis bien régalée avec Stevie Wonder. Et il y a un vieux pianiste cubain qui s'appelait Bola de Nieve, je me le suis repassé, ça fait du bien. La vieille Celia Cruz, j'ai écouté, ça a égayé la maison vraiment pendant pas mal de jours et des jours. J'ai mis la musique forte, vraiment très forte à la maison.
D'ailleurs, j'étais en train de penser qu'effectivement, par rapport au Buena Vista Social Club, du coup, ça nous a donné à l'étranger une image très masculine de cette musique.
Oui.
Et pourtant, il y a des grands noms féminins aussi dans la musique brésilienne.
Oui. À Cuba, comme évidemment la première dans la liste, c'est la grande Celia Cruz que Cuba l'adore, qui n'a plus jamais pu rentrer au pays, mais elle a resté cubaine jusqu'à la fin de ses jours. Et la Lupe, aussi partie de Cuba, mais avec une grande mélancolie aussi. Non, il y a des figures, Omar Aportuondo, chanteuse de Buena Vista Social Club. C'est vrai. Bon, la femme, elle est toujours là.
Qu'est-ce que tu penses de l'image de Cuba en France? Est-ce que tu ne trouves pas que... Parce qu'en fait, So Sweet Planet, c'est surtout environnement, culture et droits humains. Et avec aussi souvent un axe, quand j'en ai l'occasion, de déconstruction des clichés, et y compris des miens. Parce qu'en fait, on a tous clichés aussi qu'on croit qu'on n'en a pas, comme on croit qu'on n'est pas raciste, ou comme on croit que... Et puis finalement, on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a des choses, et c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais qu'on perpétue, ou que... Voilà. Moi, quand je pense à Cuba, donc je n'y suis jamais allée, mais je me dis que je dois avoir plein de clichés, parce qu'en fait, je n'ai une image de Cuba qu'à travers un petit peu la musique, et puis des images cartes postales qui sont toujours les mêmes, ou des clips que j'ai vus, où c'est toujours, effectivement, ces vieilles voitures américaines.
Ouais.
Donc, on a le cigare, les couleurs, et voilà. Et donc, je me demandais, toi, qu'est-ce que tu penses de l'image de Cuba en France? Est-ce que tu trouves qu'on a des clichés? Et aussi, qu'est-ce que tu aimerais rectifier dans l'image que l'on a de Cuba ici?
Ah, bon. Et les Français, ils adorent parler de Cuba. Ils donnaient leurs opinions.
Oui.
Mais Cuba, c'est un pays qui...
Au niveau politique,
politiquement parlant, c'est incroyable. Oui. Mais Cuba, c'est un pays qu'il faut visiter, et visiter à la maison. Il faut se faire l'opinion une fois dedans. Et on ne vient pas à Cuba comprendre comment ça marche. Ça ne marche pas. Déjà, une.
D'accord.
Par rapport à ces clichés, et, en tant que femme cubaine, c'est vrai qu'on a la réputation d'être des femmes très faciles, très souriantes, faciles d'embarquer. Et le français, il abuse. Parce que c'est très facile de me tutoyer. Déjà, autant que black et cubaine, dès que tu dis cubaine, c'est le mot magique, c'est comme des étoiles dans les cieux des hommes. C'est vrai qu'on est très rigolote, mais très, avec beaucoup de respect. C'est vrai qu'on est très, très libre, on est très tactile, mais c'est une des premières choses que j'ai remarquées ici en France. J'ai dû interpeller pas mal des gens, des hommes, pour les dire que... Je viens juste te dire que je suis cubaine. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit... Tu vois, c'est très, très facile. C'est la première chose qui m'a tapé dans l'œil.
Le comportement change.
Complètement. C'est sympa que tu apprécies mon pays, mais tu ne peux pas me juger pour ma nationalité.
Oui.
Et parce que c'est vrai qu'on a des nanas très ouvertes. Et si on a envie, on va à la seconde. On n'a pas besoin de plus de protocoles, c'est sûr. Mais ça, c'est une des choses que, que j'ai remarqué le plus.
D'autres clichés qu'on pourrait
D'autres
rectifier.
Clichés, bah, on arrive en retard. Les Cubains, t'es Cubain, bah, t'es Cubain, t'arrives à l'heure. J'ai appris déjà quelque chose. Les Cubains, on est, c'est vrai qu'on a pas mal de réputations comme ça.
Et peut-être parce qu'il y a l'image du côté festif.
Ouais, ça touche aussi. Mais c'est tellement vrai, c'est vrai que le Cubain, il est très joyeux. On aime beaucoup, beaucoup faire la musique et la fête, c'est sûr et certain. Partager. N'importe quelle journée, c'est un anniversaire. Tant qu'on a la possibilité de rigoler, on prend. C'est vrai. D'accord. C'est pas un défaut.
Oui. Alors, pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas ou peu la culture cubaine, est-ce qu'il y a quelques films, quelques livres, quelques musiciens que tu pourrais nous conseiller?
Bon, moi, comme musicien, je peux conseiller un trompettiste, Alexandre Abreu, qui il est excellentissime trompettiste. Il a fait sa formation pure salsa, avec des paroles phénoménales. C'est son écriture aussi. Mm-hmm. Il est directeur d'orchestre. Il chante maintenant sur ses albums. Alexandre Abreu, si vous avez envie d'écouter vraiment de la bonne salsa cubaine actuelle, je vous conseille Alexandre Abreu.
Et un film?
Un film, Los pájaros tirando la escopeta. C'est un film cubain et les tirs au pistolet. C'est le monde comme si c'était à l'envers. Normalement, c'est le pistolet qui tire aux oiseaux, c'est les oiseaux qui tirent au pistolet. Los pájaros tirando la escopeta, c'est un film cubain très drôle et très subtil politiquement, mais pour autant, ils disent les choses qu'il faut dire très subtilement, parce qu'à Cuba, il faut parler très subtilement et pas se mélanger dans la politique ni des conflits, sinon ton film ne sortira jamais.
Et ce film-là, on peut le voir sur le net ou...
Oui.
Mais par contre, il faut parler espagnol, j'imagine, qu'il n'y a pas eu de version
Je ne pense pas qu'il y ait des versions.
Bon, alors pour nos amis qui parlent espagnol,
malheureusement,
je n'en fais pas partie. Mais... Le petit texte qui présente ton album précise aussi que c'est un album qui rejoint le mouvement mondial de sororité.
Ni una menos.
Ni una menos. Pour l'intégrité et la dignité. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que c'est ni una menos?
Ni una menos, ça veut dire pas une de moins. Comment est-ce qu'on peut traduire? Ni una menos. Sur la violence, dans la violence dans le monde et dans cette dynamique-là, ni una menos, et comment est-ce que je peux traduire ni una menos? Plus jamais une de moins.
De moins par rapport aux femmes qui sont
aux
mortes?
Femmes, oui, oui. Plus jamais une de moins. Et évidemment qu'on se bat pour ce combat-là, féminisme, et encharné, parce que vraiment ça va loin, ça va très très loin, c'est par minute que disparaissent les femmes. Et c'est comme un objet, aujourd'hui il faut faire un stop, et je m'unis très très fortement à cette groupe des femmes, des artistes, et savoir que tous les terrains, et vraiment je suis fière d'être dans le move.
Donc ça c'est un hashtag, un hashtag comme il y a MeToo, comme il y a le hashtag Ni una menos.
Ni una menos, c'est fini. Plus jamais, ni une de plus, une de moins.
D'accord. Donc Sosuite Planète, ce sont des interviews autour de trois thèmes, donc environnement, culture et droits humains. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces trois domaines, de ce qu'ils représentent pour toi?
Bah, je vis de ça, de la culture, c'est mon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma thérapie. J'ai pas besoin d'aller chez le psychologue, j'en ai déjà ma musique pour. L'environnement, évidemment que je me bats aussi uniquement qu'avec la musique, parce que c'est le seul moyen que j'ai, je pense qu'il est assez grand pour pouvoir le combattre. Il y en a beaucoup de choses, je peux dire par rapport à ça qu'on est l'espèce les plus mauvaises de la planète. Donc quand tu te rends compte de ça, on l'a vu de nos propres yeux maintenant. La Terre, elle a crié, elle a dit non, c'est moi la patronne. Et nous, on a dû reculer devant ça. Et j'espère qu'on va prendre conscience des choses que se passent. Et politiquement?
Environnement, culture et droits humains.
Et droits humains. Ah, là, on a beaucoup de quoi parler parce que et encore les événements de nos derniers temps nous obligent à se faire une conscience et à se dire qu'on a une égalité unique, on est égal. Il faut plus chercher ailleurs. Tous les combats, racisme, etc., ils ont été déjà faits, ils ont été déjà gagnés. Donc arrêtons de se prendre la tête là-dessus il n'y a plus rien à faire, on est pareil. Tous pareil. On est tous dans la même merde, comme on disait mon dernier album, Bajo el mismo cielo, sous le même ciel. Le monde est petit comme un mouchoir, on est tous dedans. Donc là, c'est sûr et certain, on ne peut pas nous différencier, pas rien du tout.
Et tu me disais que justement pour toi, en tant qu'artiste et musicienne qui fait beaucoup de scènes, c'était très important pour toi cette richesse de la diversité dans chaque pays où tu vas.
Complètement.
Et tu me disais que toi, ça faisait partie des choses très importantes pour toi t'ouvrir à ça quand tu voyages, quand
exactement,
pour
je
la
pense
scène.
Que c'est ça que la Dame Blanche va chercher. C'est pour ça qu'elle est toujours sur la route. Et c'est pour ça qu'elle souffre tant de ne pas y être déjà.
À cause des
exactement, j'y vais donner et recevoir. Mmh. Et j'amène mon petit poudre en magique, mais j'ai rempli mon petit sacoche de plein d'énergie, plein de choses. Je pense que n'importe qui, n'importe quelle couture peut te donner une force, une vibe. J'y vais pour ça, humblement. Et quelque part, via ces expériences, via ces petits villages, tu vas te retrouver aussi et ça alimente
tous les jours quelque chose.
Oui. C'est une bonne méthode d'éducation. Oui.
Voilà. En 2018, tu disais que tu aimerais que ton album, à l'époque, donc ça doit être le troisième, je pense.
Le troisième, Bajo el mismo cielo.
Voilà, tu disais que tu aimerais que ton album soit l'album préféré de la maison, celui que l'on met en accompagnement de la vie quotidienne.
Oui.
Quand on cuisine, justement, par exemple, est-ce que c'est aussi ton souhait pour celui-ci? Est-ce que c'est toujours ton souhait?
C'est toujours mon souhait. Par exemple, à la fin des concerts, quand je vends mes disques, je les dis tout le temps, tu vas voir, ça va te donner du libido, oh, ça va... Mets-le avant de partir au travail, peut-être si tu n'avais pas envie, ça va te donner la joie de partir. Mmh. Toujours, c'est vrai que c'est mignon. C'est, je pense que ça m'arrive si ça m'arrive de que les gens ils prennent ou écoutent ma musique dans des moments bons ou mauvais. Oui. C'est délicieux, je suis contente.
Il y a quelque chose de généreux.
Oui, je suis généreuse. Je suis pas ambitieuse, mais je suis généreuse. On peut pas avoir l'ambition de réussir. Ma réussite, c'est vivre de ça toute ma vie. Hein, comme beaucoup de chanteuses ou musiciennes. De vivre de ça déjà, c'est énorme. Après, si en passant, j'ai quelques grammes ou quelques... Oui. C'est sympa aussi, je prendrai...
Tu ne cracheras pas dessus.
Non. Mais ma mission, elle est là.
Grammy Awards.
Ouais. Oui. Ma mission, elle est là d'arriver chez l'habitant, de que ça soit l'album de la maison, que les enfants, ils se disent « Ah, ma maman, elle écoutait ça ». Ou que ça marque une fête, un événement.
Oui. Et c'est un peu déconnecté par rapport à où on en est dans l'interview. J'avais quand même envie de te demander, dans le jazz, est-ce que au niveau justement des femmes, est-ce qu'il y a des femmes que tu admires particulièrement, qu'elles soient vivantes ou décédées, dans le monde du jazz?
Dans le monde du jazz,
jazz vocal ou musicien.
Oui.
En dehors de Nina Simone dont on a déjà parlé.
Évidemment. Ella Fitzgerald, c'est ma chérie d'amour. Elle me transporte et elle a une performance énorme. Et, mais sur la scène parisienne, il y en a tellement de musiciennes dans le jazz. Et je suis fan de... Que c'est peut-être parce que c'est ma collègue, mais j'écoute beaucoup son album. Julie Sorry, c'est la batteuse de Paris pour excellence. C'est une de mes meilleures amies. Et son père, M. Sorry, grand clarinettiste aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est une des femmes que j'admire le plus dans le milieu du jazz.
Donc en général, je souhaite à la fin de mes interviews une bonne continuation. Là, avec le contexte actuel, c'est difficile de souhaiter bonne continuation à des artistes, surtout dans la musique, alors qu'on ne sait pas du tout ce que vont donner les mois qui viennent en termes de scènes, de festival, pas festival, concert, pas concert, tout est en suspens. Je vais te souhaiter le meilleur, vraiment, en espérant que tu puisses rapidement remonter sur scène.
Reprendre la route.
Voilà, surtout si c'est ta thérapie.
Ça va exploser bientôt.
Il faut vite reprendre le traitement.
C'est sûr.
Merci beaucoup, Dame Blanche. Merci de cette belle rencontre. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de te voir sur scène. Je ne manquerai pas.
Prends ta petite dose.
Voilà, dès que ça se présentera, j'espère que tu auras l'occasion de faire encore de nombreuses scènes et de nombreux albums aussi.
Ah, j'espère.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.